Donc sur cette deuxième partie, on va voir un aspect beaucoup plus pratique. On va lire juste un petit passage, comme dans la parole de Dieu, Marc chapitre 16. À partir du verset 15. Donc Jésus leur dit, allez dans le monde entier et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons. Même pas des, c'est les démons. Ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout, et ce que j'aime énormément, le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les signes qui l'accompagnaient. Amen. J'aimerais qu'on puisse passer juste une vidéo pour traiter rapidement de ce qu'est notre ministère. Donc, tu vois laquelle est-ce? Manque le son. Disciples. Faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est le dernier commandement que Jésus nous a donné. C'est le dernier. Jésus a parlé avec des commandements, mais ça, c'est le dernier qui a été donné aux disciples de Jésus-Christ. Et je dis bien disciples, parce que c'est rare que je le dise, mais je ne suis pas chrétien. Je ne suis pas musulman. Avant tout, je suis disciple de Jésus-Christ. Et pourquoi je dis je ne suis pas chrétien? Parce que chrétien, ça veut dire quoi? Vous allez me dire, ça veut dire petit Christ. Mais les catholiques s'appellent chrétiens. Les témoins de Jéhovah s'appellent chrétiens. Et quand vous discutez avec un musulman, que vous lui dites que vous êtes chrétien, vous allez discuter peut-être une heure, peut-être trois jours, peut-être des mois. Et tout le long de vos discussions, il croira que vous êtes catholique. Et si vous arrivez à lui faire prendre conscience que vous n'êtes pas catholique, il va croire que vous êtes témoin de Jéhovah. Et oui, et le diable était très très fort pour semer le trouble, pour semer la confusion, pour qu'à cause de telles choses pareilles, on ne puisse pas présenter Christ. Et le mot initial qui concerne les chrétiens, c'est disciple. Et dans le mot disciple, il y a la racine discipline. Et quand on parle de discipline, ça sous-entend que la chair, elle n'a pas envie de faire quelque chose que Dieu souhaite pour nous. Je me rappelle quand j'étais petit, j'étais pas grand, quand j'étais petit, mon père nous a forcé à faire de la gymnastique et je détestais cette discipline. je détestais. Mais je me rappelle, il y avait les profs, quand on s'entraînait, tous les gamins qui étaient à côté, c'était des adultes, hein. Ils s'assoyaient dessus les gamins pour qu'ils puissent faire le grand écart. Et je les entendais crier, et je les entendais pleurer. Et moi, je me laissais suspendre à des barres, et progressivement, j'ai fait le grand écart. Mais on souffrait et terriblement. Et au bout d'un an, j'ai plus voulu renouveler ces choses-là, parce que c'est très dur. Mais les années ont passé, et finalement, j'ai regretté d'avoir arrêté. C'est comme la guitare. J'ai fait un an de guitare, et après, j'ai regretté d'avoir arrêté. Parce qu'on s'aperçoit que la chair n'aime pas l'effort. Mais nous avons besoin d'effort pour faire des choses qui nous dépassent. Et je me rappelle quand j'étais gamin, j'avais 6 ans, je ne sais pas si vous vous rendez compte, j'étais capable de faire les arceaux, vous savez, les machins à la gymnastique là, qui sont suspendus, j'étais capable de tenir comme ça à l'équerre. Aujourd'hui, pourtant, je suis plus fort que quand j'étais petit et je suis incapable. Oui, donc vous voyez, et donc, on a besoin de discipline. Et dans la parole de Dieu, on a besoin de discipline. Ce n'est pas naturel pour nous de nous plonger dans la parole de Dieu, de la lire tous les jours. Si on ne se fait pas violence, on n'arrivera pas à l'ouvrir, la Bible. Si on ne se fait pas violence, on n'arrivera pas à prier. Si on ne se fait pas violence, on aura même du mal à venir en semaine à l'église, parce que le dimanche, tout le monde vient. Mais en semaine, c'est beaucoup moins le cas. Donc, il faut savoir se faire violence. Et ça fait partie de la discipline. Voilà pourquoi Jésus parlera de pas faire des chrétiens, mais faire des disciples. Et c'est aujourd'hui le problème de beaucoup, je dis pas de cette église, parce qu'ici, il y a le feu, mais c'est le problème de beaucoup de chrétiens, ou de beaucoup d'églises, c'est qu'on ne fait pas des disciples. Or, il y a une différence entre amener une âme à Christ, et en faire un disciple. Faire un disciple, ça veut dire que je transmets mon savoir pour qu'à son tour il puisse transmettre. Et c'est très important. On ne peut pas garder le flambeau que pour soi. On ne peut pas garder le salut que pour soi. Et Jésus nous encourage parce qu'il nous dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que dans les moments les plus durs que je puisse traverser, Jésus est avec moi. Et pourtant, je peux vous dire que ce n'est pas facile d'être chrétien. C'est ce que je prêche parfois. Je dis, voilà, depuis que je suis chrétien, j'ai jamais eu autant de persécutions. Ma vie n'a jamais été aussi dure que depuis que je suis devenu chrétien. Et ça c'est la vérité. C'est la vérité. Et on peut pas mentir. Et quand on prêche l'évangile à des âmes nouvelles, dire oui, si tu viens à Christ, tu verras, le Seigneur va te donner une femme, ou il va te donner un mari, il va te donner un travail, tout va aller mieux. C'est pas vrai. Et surtout si tu prêches ça à un musulman. Parce qu'un musulman, s'il quitte l'islam, il va vivre le rejet de la famille. Et dans l'islam, quand on quitte l'islam, c'est coranique, ça s'appelle l'apostasie, et c'est la condamnation à mort. Donc si l'église n'accueille pas le musulman comme un frère, mais un vrai frère, qui lui se donne à Jésus, et qui lui, en se donnant à Jésus, il est rejeté par sa propre famille de chair, et qui ensuite il est en même temps rejeté de l'église, mais il va aller où? Et là je vous parle de fait. Parce que je me souviens un jour, on a fait une action d'évangélisation du côté de l'Atlantique de la France, et il y avait une église où on avait une action d'évangélisation dans la rue, et il y avait une femme voilée musulmane en djellaba qui ce jour-là accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et puis donc on réussit à la faire rentrer dans l'église, elle est très contente, elle est devenue chrétienne. Première fois qu'elle rentre dans l'église, et puis on chante, on fait un concert en arabe avant d'annoncer la parole. Et vous savez, la culture africaine, on connaît, les yoyou. Les yoyou. Vous savez ce que c'est, les yoyou? Non, j'étais sûr. Hein. Mais là, t'as dit la, c'est yoyou. C'est un alléluia, mais en accéléré. Et là, pendant qu'on chantait en arabe, elle a fait des yoyou avec une voix beaucoup plus aiguë. Quand elle a fait les yoyou, J'étais choqué, pas par elle, j'étais choqué par les chrétiens, parce qu'il y a des chrétiens qui se sont retournés vers elle et qui l'ont regardé comme si c'était une possession, une manifestation démoniaque. C'est quoi ce truc? Ils l'ont regardé, si à la place des yeux ils avaient eu une Kalachnikov, elle serait devenue démentale. Donc, mais j'étais très triste, et cette femme, à cause de cette attitude, elle n'est plus jamais revenue dans cette église. Et il y a des réalités, mes frères et sœurs. C'est pourquoi il est très important de considérer la formation. Même ici, à Bruxelles, il y a des femmes qui se sont converties, on leur a dit, voilà, allez à l'église, à l'église. Et dans certaines de ces églises où elles sont allées, ces femmes musulmanes qui venaient d'accepter Christ, des chrétiens très spirituels, leur a dit, maintenant que tu es chrétienne, tu dois retirer ton voile. Et elles ne sont plus jamais revenues. Donc, je vous dis, mes frères et sœurs, souvent, sous prétexte de la grâce, finalement, on tue. On dit que la lettre tue et que l'esprit vivifie, et sous prétexte de la grâce, on tue. Parce qu'on n'accepte pas la différence de l'autre. On dit, voilà, tu viens à l'église, c'est planté là-bas. Tu viens à l'église, tu dois pas être barbu. Bon, aujourd'hui, je suis pas très barbu, mais d'habitude, je suis bien barbu, il y en a qui est. Mais, si une femme vient voilée, on doit l'accepter telle qu'elle. Si une femme prostituée rentre en tenue indécente, on doit aussi savoir l'accueillir. Et je dis pas qu'elle doit montrer toutes ses formes, on doit aussi montrer de la pudeur, mais il faut savoir accueillir celui qui est différent. Parce qu'on risque de perdre une âme. Et si on perd une âme à cause de notre attitude, on aura des comptes à rendre à Dieu. Et ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc, là, tous ces immigrants qui viennent ici, et c'est ça qui est très important, c'est que, on l'a vu en conclusion, c'est une très grande et une très belle opportunité de leur offrir l'évangile. Que ce soit des terroristes, que ce soit des musulmans radicaux, que ce soit des musulmans modérés, ou des athées, peu importe, parce que parmi tous les Syriens, il y en a qui sont chrétiens quand même. Il faut savoir les accueillir, et il faut savoir leur présenter l'évangile. Et ça, c'est le problème. C'est qu'on ne sait pas toujours présenter l'évangile, et particulièrement aux musulmans. Et vous savez, je disais à une sœur tout à l'heure, faute de connaissance, mon peuple périt, et nous n'ignorons pas les desseins du diable. Donc, ne pas ignorer, ça veut dire qu'on doit connaître. Est-ce que vous savez ce qu'est l'islam? Si vous ne savez pas, vous ignorez les desseins du diable. Est-ce que vous connaissez les stratégies des musulmans? Si vous ne savez pas, vous ignorez les desseins du diable. Est-ce que vous connaissez l'enseignement que les musulmans d'aujourd'hui apportent dans les mosquées? Et donc c'est là qu'on voit que on ignore les desseins du diable. Et aujourd'hui, les musulmans s'intéressent entre guillemets à la Bible, et il y a des musulmans qui des très hauts musulmans, comme un gars qui s'appelait, puisqu'il est mort, Ahmed Dida. Et ce Ahmed Dida, l'un des plus grands imams qui ait eu dans le monde musulman, a attaqué l'évangile, jusqu'à aller dire que, bien sûr, la Bible se contredit, que la Bible annonce Mohammed, que la Bible elle a été falsifiée, et que la Bible en a retiré des livres, comme l'évangile de Barnabé ou de Judas, enfin, vous voyez, des textes apocryphes, et des textes qui prouvent même pas la véracité, l'authenticité de quoi que ce soit. Mais, cet homme, ce qu'il a fait, il a fait beaucoup de débats, et notamment, il a fait un débat contre Jimmy Swaggart. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart, c'est un télé-évangéliste américain qui a toujours sa chaîne télé à l'heure actuelle. Et donc Jimmy Swaggart a perdu un débat contre Ahmed Dida. Et ça, ce sont des débats qui sont vendus comme des petits pains dans les magasins islamiques que vous avez en Belgique notamment. Et donc les musulmans sont très friands de ces DVD qu'ils achètent, et ce sont des enseignements qui sont à leur tour enseignés dans les mosquées. Donc les musulmans sont enseignés sur des choses erronées concernant l'évangile. J'en veux pour preuve que si par exemple on prenait l'évangile de Jean qu'on peut projeter, je ne sais pas si c'est possible de projeter l'évangile de Jean chapitre 16, fais-moi défiler, je te dirai. Bon, ça va plus vite si je cherche avec ma Bible. Voilà, à partir du verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et nul de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai parlé ainsi, la tristesse a envahi votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte. Car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. De péché parce qu'il ne croit pas en moi. De justice parce que je m'en vais vers le Père et que vous ne me verrez plus. De jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Quand il sera venu, lui, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car ses paroles ne viendront pas de lui-même, mais il vous parlera de tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Amen. Je m'arrête là parce que c'est exactement le texte qu'a ressorti Ahmed Dida face à Jimmy Swaggart, le pasteur Jimmy Swaggart. Et il n'a pas lu la suite. Mais bon, on va revenir dessus. Et donc, voilà ce qu'il a expliqué. Il a utilisé la parole de Dieu un petit peu comme je l'ai utilisé tout à l'heure, ça veut dire en prenant les mots dans leur origine. Donc le consolateur dans ce passage-là, c'est le mot paraclète. Paraclète, comme vous voulez, en grec. Et donc il a dit, voilà, paraclète, en arabe, c'est le mot Ahmed. Et le mot Ahmed, c'est le diminutif de Mohammed. Donc, en fait, Jésus est en train d'annoncer la venue de Mohammed. C'est ce qu'il explique en conférence. Et Jimmy Swaggart ne saura pas répondre. Et je trouve ça, dommage, mais, donc, finalement, il est en train de dire que le consolateur Mohammed, je vois pas en quoi il était un consolateur, mais bon, bref, c'est, chacun voit, comme un aveugle ou voit comme le Seigneur, chacun son choix. Et là, il dira finalement que Mohammed vous conduira dans toute la vérité. Que lui convaincra le monde, Mohammed, de péché, de justice, de jugement. Mais comment on peut prouver qu'on ne parle pas de Mohammed? Allô? Je vous écoute, hein? Vous êtes venus m'écouter, je viens vous écouter aussi. Comment on peut prouver qu'il ne s'agit pas de Mohammed dans ce passage? Ouais, mais c'est écrit où, ça? Ouais, mais c'est pas écrit que c'est l'Esprit de Dieu. Oui. Il faut... Oui, mais là, il a utilisé ce passage. Oui, mais il utilise ce passage, donc il faut pouvoir défendre la vérité. Qu'est-ce que je peux faire pour montrer qu'il ne s'agit pas de Mohammed? Oui. Sauf qu'il ne dirait pas ça. Parce que c'est pas écrit Saint-Esprit. Il dira paraclet, ça veut dire consolateur. Parce que roi Kodesh, paraclet, ce sont... Alors pour toi, ils ont reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte? Voilà, ça c'est, il faut faire la différence, ça c'est très important. Alors, ce qu'il a dit est juste. Maintenant, je l'explique un peu mieux. Ça ne veut pas dire que tu l'as pas bien expliqué, mais non. Nous sommes à quelle époque quand Jésus est en train de dire ça à ses disciples? À peu près. Oui. Alors, concrètement parlant, on est à peu près en l'an 30. Parce que Jésus n'a pas parlé étant bébé, donc on est à peu près en l'an 30. Mohammed est né en 570, pour parler belge. Et l'islam est né en 622. Donc, concrètement parlant, les premiers, comme je l'ai dit, à être bénéfices du consolateur étaient les disciples du vivant de Jésus. Les disciples du vivant de Jésus auraient-ils pu attendre 600 ans pour recevoir le consolateur? Ça aurait été les œufs et peut-être la poussière qui attendu le consolateur. Donc, il faut comprendre un petit peu le contexte et là, comment les musulmans d'aujourd'hui arrivent à extirper les contextes de la parole de Dieu. Et c'est là où il est très bon de se renseigner et de s'informer. Et j'aime beaucoup, pardonnez-moi ce que je veux dire, j'aime beaucoup l'islam à cause de cela. Parce que l'islam nous pousse à être meilleurs dans la connaissance de la parole. Et doit nous pousser à être meilleurs. C'est comme une compétition. Si vous regardez un match de foot, s'il n'y a pas une équipe adverse, ça ne sert à rien de regarder le match. Si vous regardez un marathon, s'il n'y a qu'un seul coureur, ça ne sert à rien de regarder le marathon. Si il y a une course de 100 mètres et qu'il n'y a qu'un seul coureur, ça sert, il n'y a aucun intérêt. Et ce que les hommes aiment, c'est voir la rivalité, c'est la compétition. Et quand nous, on est en compétition, on doit comprendre qu'on n'est pas dans les gradins, mais qu'on est sur le terrain. Quand on est en compétition, on veut être le meilleur. C'est vrai ou c'est pas vrai? Pas par orgueil, on veut être le meilleur parce que Jésus nous a donné le meilleur. Et on combat pour gagner la coupe, c'est ce que dira l'apôtre Paul. Je donne pas des coupes dans le vent, mais et quand moi, si je suis sur la ligne de départ pour courir, c'est le fait d'avoir des adversaires qui va me pousser à m'entraîner encore plus parce que je veux être meilleur que les autres. Si je n'ai pas d'adversaire, je n'aurai pas de motivation. Donc je dois prendre l'islam comme une motivation personnelle pour être encore meilleur dans la connaissance de la parole. J'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Et c'est vrai. Et que ce soit pour l'islam, que ce soit pour le bouddhisme, que ce soit pour la franc-maçonnerie, que ce soit pour n'importe quoi, l'homosexualité, l'athéisme, tout doit me pousser à être encore meilleur dans les écritures. Parce que, regardez un petit peu comment, concrètement, le Saint-Esprit, le consolateur ne pouvait pas être Mohammed parce que le consolateur devait être donné premièrement aux disciples du vivant de Jésus-Christ. Donc, on voit déjà qu'il n'y a rien à voir. Mais si on continue à lire le verset qui suit, que je n'ai pas lu. Qu'est-ce qui est écrit là? Le consolateur me glorifiera. Mohammed n'a pas glorifié Jésus. Donc vous voyez, il a lu un passage en éclipsant la suite, et c'est très facile de faire dire ce qu'on veut. Et notre but, ce n'est pas de faire dire ce qu'on veut quand on prêche l'évangile, quand on témoigne de Jésus-Christ. On n'est pas là pour faire dire ce qu'on veut, mais on est là pour faire comprendre ce que la parole de Dieu veut nous faire comprendre. Et c'est la différence avec l'interprétation. Et je suis contre l'interprétation. On n'est pas là pour interpréter. L'interprétation, c'est une part personnelle de la chair qui est donnée en plus de la parole. C'est pourquoi il est écrit, on interprète donc le parler en langue, ça c'est l'interprétation, mais il est écrit pour ceux qui interprètent, vous voyez les parler en langue, d'examiner. Pourquoi examiner les prophéties? Pourquoi éprouver les esprits? Parce qu'il y a l'interprétation, et quand il y a l'interprétation, il y a la part de la chair. Et il faut dissocier ce qui pourrait être la part de la chair de la part de l'esprit. Mais la parole de Dieu, on n'a pas le droit de l'interpréter. Maintenant, vous avez les musulmans qui vont vous dire, mais pourquoi vous avez plusieurs bibles différentes? Les musulmans nous attaquent comme ça. Vous avez plusieurs traductions. Vous avez... Alors c'est là où il faut... C'est ça qui est important. C'est ça, c'est traduction. Pour moi, c'est ça qui est important, c'est traduction. Ce n'est pas des bibles différentes, ce sont des traductions. Et la traduction est originaire de textes originaux. Et c'est là où on doit savoir s'appuyer. La Bible, on a la Bible en textes originaux, en hébreu, un petit peu d'arméen et du grec. Ça, c'est la Bible originale. Maintenant, je ne l'ai pas dit, mais la langue grecque, la langue hébraïque, ce sont des langues très riches. Voilà pourquoi tout à l'heure j'ai pris la définition des mots d'après leurs textes originaux, parce que dans les mots originaux, on voit la profondeur, et on peut pas traduire la profondeur d'un mot de l'hébreu ou du grec au français, parce qu'autrement la Bible, elle serait grosse comme ça. Vous voyez, mais, et pour les arabes, les musulmans, eux, ils comprennent ça, parce que la langue arabe est une langue très complexe aussi, c'est une langue très riche. Donc, moi je réponds à des musulmans qui disent qu'on a des bibles différentes. On n'a pas des bibles différentes, on a une bible traduite d'après les textes originaux. Maintenant, ce que je réponds aux musulmans, si je te dis, salam alaikum, qu'est-ce que tu me traduis? Il dit, ouais, ça veut dire bonjour. Un autre va dire, ça veut dire que la paix soit sur tous. Ça veut dire la paix sur chacun d'entre vous. Vous voyez, déjà trois musulmans ont répondu des phrases différentes, mais qui veulent dire la même chose. Et c'est ce qui se passe pour nos Bibles que nous avons, qui sont traduites d'après les textes originaux. Mais les textes originaux n'ont pas bougé dans le temps. Et ça, il faut savoir le dire. Parce que beaucoup de musulmans ne veulent pas la Bible parce qu'ils croient qu'elle a été falsifiée. Et on doit avoir l'audace et le caractère. Et on doit être convaincant pour dire que la Bible n'a pas été falsifiée. Et quand on offre une Bible à un musulman, il faut toujours lui dire c'est la Bible originale. C'est pas une Bible falsifiée. Parce que de lui dire que c'est une vraie Bible, ça va l'intéresser. C'est très important. Un mot peut faire la différence. Quand vous allez aborder un musulman, il y en a qui vont aborder le musulman souvent comme un conquérant, ou on ne doit pas avoir un esprit hautain, c'est ce qu'on a vu avec le Samaritain. Et on doit être vraiment humble quand on va voir un musulman, et on n'est pas là pour gagner un débat, on est là pour gagner un cœur. Et vous savez très bien que quand on parle avec un musulman, ça va rentrer dans du débat. Parce que le musulman, il a plein de questions. Et le but, c'est pas que lui vous dirige. Le but, c'est que vous puissiez le conduire. Et je me rappelle un jour, j'étais en train d'évangéliser une quinzaine de musulmans. C'était dans un quartier, à Lyon. Et parmi tous les musulmans, il y en avait un qui était vraiment musulman. Ça veut dire que c'était un qui était vraiment pratiquant. Parce que sur le nombre de musulmans que vous voyez, il y en a très peu qui pratiquent l'islam. Voilà pourquoi chacun pratique sa sauce. Mais... bien sûr, j'évangélisais. Quand j'évangélise, donc il y en a qui me posent une question. Donc, quand ils me posent la question, je garde la question. Et pendant que je suis en train de répondre, ça influe pour une autre question. Et c'est là où on doit avoir le caractère. Parce que quand on te pose une autre question, tu dois pas aller sur l'autre question. Parce que si tu veux répondre à toutes les questions, tu ne pourras jamais terminer une question. Et à la fin, tu n'auras jamais répondu à quoi que ce soit parce qu'on ne te laissera pas le temps de finir de répondre. Et tu auras mal à la tête, tu seras fatigué, tu vas rentrer. Et ce mal à la tête, cette fatigue, c'est spirituel, c'est un combat spirituel. C'est pourquoi l'esprit de l'islam est très épuisant. Et mon but, moi, c'est ce que je faisais avec eux, et pas qu'avec eux, mais avec tous les musulmans que je rencontre. Quand je discute avec un musulman, quand il veut me poser une question... Une autre question, je parle, je dis excuse-moi, je finis la question et après on verra. Mais en fait, je garde la première question pour le conduire à la croix, pour le conduire à Jésus. Et à chaque fois qu'il y a une question, excuse-moi, j'ai pas fini. Et je suis comme ça. Et vous devez aussi avoir ce caractère de pouvoir conduire sans montrer que c'est une autorité mauvaise. Vous voyez, avec douceur. Et ça, c'est très très important. Donc, on ne peut pas venir avec un musulman lui parler de Jésus en tant que fils de Dieu d'entrée. Si vous dites à un musulman, voilà Jésus, c'est le fils de Dieu, il n'y a plus de discussion derrière. J'ai dit Jésus, fils de Dieu, c'est le fils. Oui, c'est pour ça que je dis, si on parle de Jésus dès qu'on rencontre un musulman en tant qu'un fils de Dieu, il ferme la porte pourquoi ? Pourquoi il ferme la porte ? Parce que moi, si je suis là et que je vous dis tout de suite, Dieu, il a couché avec Marie et puis il a eu Jésus, vous allez me dire quoi? Ah, j'aime bien comment tu me regardes là. Choqué. Choqué, hein? Ben oui, mais c'est bien d'être choqué. Mais si vous êtes choqué, imaginez-vous combien le musulman est choqué quand vous dites que Jésus est le fils de Dieu. Parce que quand vous lui dites Jésus, fils de Dieu, il comprend que vous êtes en train de dire que Dieu a couché avec Marie. Et il comprend ces choses-là sous la forme charnelle. C'est pour ça que je vous dis, il faut comprendre la culture de l'autre. Vous avez des gens qui viennent d'une culture différente, et on a notre culture. Mais quand on a notre culture, on ne veut pas comprendre la culture de l'autre. Si vous ne comprenez pas la culture de l'autre, vous ne pourrez pas annoncer l'évangile. C'est pourquoi j'aime une parole très forte, très pertinente. Pour moi, c'est l'une des paroles les plus importantes de la Bible. Quand l'apôtre Paul dira, je me fais tout à tous. Je me fais tout à tous, tu ne peux pas te faire tout à tous si tu ne prends pas du temps à vivre avec l'autre. si tu ne passes pas du temps, non pas à parler, mais à l'écouter, à l'observer, à le voir pour savoir comment présenter l'évangile. Et tu ne peux pas savoir comment présenter l'évangile si tu ne connais pas les coutumes, si tu ne connais pas la culture. Et si dans la culture, parce que la culture orientale c'est quand même ça, si toi tu es un homme et que tu vas adresser la parole à une femme voilée, dans la rue, la femme voilée, quand elle va rentrer à la maison, ça risque de chauffer pour elle. Parce qu'elle a parlé avec un homme. Et si tu ne connais pas cette culture-là, tu risques de mettre une personne en danger. Et tu seras discrédité parce qu'on t'a vu, toi, aller parler à une femme. Toi, qui te dis chrétien. Comment ça, toi, tu es un homme et tu parles à une femme? C'est quoi ce truc-là? Oui, il y a une culture qu'on doit connaître. Et l'Europe occidentale, l'Amérique, a une culture où on est libre entre hommes et femmes. Mais dans la culture orientale, dans la culture sémite-orientale, il n'y a pas. Il y a une frontière entre l'homme et la femme. Et ça, on doit le comprendre. Et je me rappelle un jour qu'on était en pleine action d'évangélisation dans un quartier. Moi, je suis formateur. Hein. J'ai passé un diplôme pour être formateur, pour savoir comment enseigner l'évangélisation et pour savoir comment mettre en place des campagnes d'évangélisation. Donc, j'avais une stagiaire avec moi. Et cette stagiaire, bien sûr, tous les stagiaires qui venaient à cette formation venaient avec des recommandations de pasteurs. Et cette stagiaire, c'était une habituée de l'évangélisation. Et quand on est monté dans les tours, on a frappé à la porte et on connaît les consignes, on apprend les consignes. Si c'est un homme qui répond, c'est moi qui parle. Si c'est une femme, c'est toi. Donc la femme, la sœur. Et là, c'est un homme qui ouvre la porte. Et cet homme qui ouvre la porte, il faut savoir discerner les choses. C'est pour ça que je vous dis, il faut connaître. On n'ignore pas les desseins du diable. Et là, pendant qu'on discute, il ment. Et moi, je sais qu'il ment. Mais c'est pas grave, c'est pas parce qu'il ment que je lui dis « Oh, t'as un menteur !» Mais la sœur en question, elle dit « Non !» Elle « Oh !» Quand le musulman, il a vu la chrétienne parler comme ça, c'est une femme qui prend autorité sur un homme, le regard du musulman, il va virer. Il a viré. « Quoi ? Comment tu me parles, toi ?» Et alors là, c'était la poudre aux yeux, parce que pas que de la poudre aux yeux, mais la poudre qui montait, c'est parce que vous savez, le caractère des sémites, c'est épicé. Je sais. Tu sais de quelle origine? Congo, purée. Le Congo, c'est encore plus épicé. Parce que je me rappelle ma femme quand je l'ai amenée en Belgique la première fois après notre mariage. On a été manger chez des Congolais. Et puis la maman congolaise, elle arrive avec les plats, le foufou et tout. Et puis elle dit, voilà, ça c'est du piment. Et attention, ça pique. Et puis ma femme dit, oui, j'ai l'habitude. Quand ma femme, elle a dit, j'ai l'habitude. Je me suis tué. Je voulais prendre mon téléphone pour filmer la scène, mais je me dis, purée, non, je peux pas, parce qu'elle va voir quelque chose de louche, quoi. Donc je me suis fait violence, j'ai pas pris mon GSM, et je me suis mis un peu en retrait, j'ai observé ma femme, et j'ai vu ma femme mettre la sauce piquante sur tout le foufou. Mais la quantité, elle a pris la fourchette, quand elle a pris la fourchette, elle avait... Et là, de ce coup, j'ai eu un fou rire, et quand j'ai eu un fou rire, ma femme, elle était en colère contre moi. Ma femme qui dit à la maman, j'ai l'habitude, mais le piment algérien n'a rien à voir avec le piment congolais. Donc, il y a les pays où il y a vraiment le sang chaud, il y a un caractère chaud. En Afrique et dans les pays sémite-orientales. Et quand je parle de caractère chaud, ça veut dire qu'autant ce sont des gens très accueillants, autant quand ça va mal, ça peut chauffer très fort. Et ça, c'est vrai. Et donc, vous voyez, ce gars-là, ça a chauffé très fort. Et comme il a trouvé sa proie, il voulait plus m'écouter. Donc là, il est tombé dessus, il est sorti de son appartement. Et puis, il y a un autre musulman qui est en train de monter les escaliers. Et ce musulman, lui, c'était un érudit de l'islam, qui connaissait mieux l'islam que ce gars-là, chez qui en avait toqué. Et là... le musulman dit à cet autre musulman qui arrive, elle a dit ça, et donc les deux se retrouvent sur elle. Quand les deux se trouvent sur elle, elle était plaquée contre le mur, et aucun des deux ne parlait parce qu'ils avaient trouvé une proie, et qu'est-ce qui se passe? Elle dit quelque chose qu'il fallait pas dire. Elle dit, non, parce que Dieu... « Attends, t'as mis le monde qu'il a donné son fils !» Dès qu'elle a dit « fils !» Oh, pauvre. ça a été le piment africain. Ça a été le piment, ça a chauffé, les deux, ils ont pété un câble. Et le gars chez qui j'avais toqué, il est rentré chez lui pour prendre son courant pour l'aigre. Et pendant qu'il est rentré chez lui, j'ai pu, par la grâce de Dieu, prendre l'autre qui connaissait Mélissa, mais j'ai pu l'évangéliser à part. L'autre, il est revenu, il s'est jeté contre la sœur. Il la frappait pas, parce que s'il a frappé, j'aurais réagi différemment. Mais et c'est spirituel, c'est psychologique, ce combat-là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le gars, j'arrive, merci Seigneur, à le toucher, et j'ai réussi à lui offrir la Bible. Celui qui connaissait l'islam. Et donc, il rentre chez lui, je l'invite à une action qu'on allait faire dans le quartier. Donc, il prend l'invitation. Et pendant qu'il rentre chez lui, je m'occupe de l'autre. Et pendant que j'essaie de m'occuper de l'autre, la sœur, elle part. Parce qu'elle voit qu'il n'y a pas de discussion possible. Qu'est-ce que tu veux discuter, toi, femme, avec un homme musulman? Surtout si tu as voulu prendre autorité sur l'homme. Chose qui ne se fait pas du tout dans l'islam. Et ça, dans certains pays d'Afrique aussi, ça ne se fait pas que la femme prenne autorité. Ici, c'est l'égalité des sexes. Vous savez, on vient de nommer l'Arabie Saoudite comme représentant des droits de l'homme, mais je crois que c'est quand même le deuxième pays au monde où on persécute le plus les chrétiens. Et je crois qu'ils ont confondu les droits de l'homme et les droits que de l'homme. Mais bon, quand cette sœur est en train de partir... Ce musulman disait, ouais, tu pars parce que c'est le diable qui est en toi. Et ça avait, il n'y avait plus de quoi de répondre. Et merci Seigneur, quand j'étais seul avec lui, j'ai quand même pu l'évangéliser et j'ai pu lui offrir la Bible, gloire à Dieu. Mais il y a un contexte à respecter. Et quand on va évangéliser, on doit comprendre la culture de l'autre. C'est pourquoi on se fait tout à tous. Tu peux pas aller dans un quartier des musulmans, toi, sœur, avec une mini-jupe, ou un décolleté à faire loucher les hommes, parce que les hommes dans l'islam sont très charnels. C'est vrai, c'est pas vrai? Quand ils regardent dans la rue, ils regardent pas les hommes, ils regardent les femmes. Et ils les déshabillent, et plein de choses. Donc je dis, on doit aussi avoir un témoignage sur notre tenue vestimentaire, sur notre langage, sur notre façon de parler, c'est très très important. Et donc, dans l'évangélisation, il y a des règles. Parfois, eh ben, c'est pas toujours des règles qui s'applique, mais c'est parfois. Mais de manière générale, c'est comme ça. De manière générale. Et on doit prendre aussi les généralités en compte. Si tu rencontres, bien sûr, toi, sœur, un musulman comme ça dans la rue, et que tu n'as pas le choix, tu l'évangélises, il y a un contexte différent. Mais si tu vas faire du porte-à-porte, que vous êtes un homme, une femme, essayez toujours d'être à deux, c'est ce que Jésus fait quand il envoie ses disciples, deux par deux, il les envoie, et essayez d'être mixte, homme-femme. Ça, c'est très important. Et donc, les immigrés qui arrivent ici, ce qui est très important, si vous rencontrez des Syriens qui viennent en tant que réfugiés, c'est déjà faire preuve d'hospitalité envers eux. Et le musulman va observer votre attitude. Ça, c'est... Je vous dis la vérité, le musulman va toujours observer votre attitude. Parce que... tu peux pas être hypocrite avec un musulman. Il va savoir si tu as vraiment de l'amour pour lui ou pas. Ou si tu te forces, si tu es sincère ou pas avec lui. Donc, apprenez à être vrai. Apprenez à être sincère. Et ne mettez pas les pieds dans le plat si vous connaissez pas le plat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Parce que je pourrais... À l'heure actuelle, il y a des vidéos hein, de... Je crois que... Je vais en passer une rapidement. Une vidéo d'un jeune musulman. C'est un Allemand qui s'est converti à l'islam. Et il islamise dans la rue en Allemagne, et c'est un Allemand, je dis bien un Allemand, c'est un Européen, un Occidental. Et les Occidentaux, les Belges, les Allemands, les Français qui deviennent musulmans sont plus durs même que les Arabes eux-mêmes. Tu peux me montrer ici ce que tu vois dans ton écran? Non. Tu viens en arrière, s'il te plaît. Alors, parce que je vais voir si les dossiers... Voilà. On était dans ce dossier-là, c'est ça? Ok. Eh ben, oui, c'est bizarre. Alors, il n'y a pas d'autres dossiers. Islamisation de l'Europe. Je ne crois pas que ce soit ça. Ouais, je crois que c'est aussi là, parfait. Voilà, Pierre Vogel. Voilà. Parce que bon, j'ai pas mal de vidéos, mais on peut pas tout regarder. Mais vas-y. Mets du son, s'il te plaît.
Yeah, come here. Come here. Nein, schrei doch nicht so. Guck mal, du musst nicht so schreien, du hast hier ein Mikrofon. Guck mal, komm doch mal bitte. Schrei doch nicht so, komm doch her. So. Du musst doch nicht so schreien. Du musst nicht so schreien, ja. Nachher kriegen die Leute auch Angst, sagen, die sind Hassprediger oder so. Stell mal vor. So, ich habe eine Frage an dich. Glaubst du, dass Jesus Gott ist?
Jesus ist Gott und er ist der Sohn Gottes, der für uns am Kreuz gestorben ist,
okay,
für unseren Sünde.
Du glaubst, dass Jesus Gott ist?
Ich weiß es.
Du weißt es, okay, sehr gut. Ich habe eine Frage an dich.
Ja.
Ist Gott allwissend?
Ja.
Gott ist allwissend, also Jesus ist allwissend?
Ja.
Okay. Lügt Gott?
Nein.
Also Jesus lügt nicht?
Nein.
Okay. 13, Vers 32.
Ja.
Jesus wird befragt, wann ist der jüngste Tag?
Ja.
Er sagt, das weiß nicht ich. Das wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott.
Ja.
Hat er hier gelogen oder weiß er es nicht?
Er weiß es nicht.
Er weiß es nicht. Dann ist auch nicht Gott, du hast eben gesagt, Gott weiß alles. Guck mal, ist vorbei. Ist vorbei, ist vorbei. Ich bitte dich. Die Wahrheit haben wir gerade gesehen, mehr brauchen wir nicht. Er hat gesagt, Gott weiß alles. Er hat gesagt, Jesus weiß es nicht. Ja, die Bibel habe ich gelesen, macht keine Sorgen, keine Angst. Übrigens, ich will hier keinen beleidigen. Ich will keinen Glauben beleidigen. Uns geht es um eine sachliche, objektive Herangehensweise. Und das gebe ich jedem Menschen als Tipp. Das klassische Christentum, hör doch auf, du bist dann der Hassprediger. Mensch. Seht ihr das, wie die Muslime ruhig bleiben? Mensch. Medien, seht ihr das? Wir werden angeschrien, wie die ruhig wir bleiben. Mensch, ihr seid echt cool drauf. Toll. Okay. Ja, ist klar. Können wir weitermachen? Guck mal. Ja. Ich weiß, dein Gott hat dir gerade geholfen. Das haben wir gesehen. Okay. Entschuldigung, es stört wirklich, weil wir wollen weiter die Rede führen. Wir haben ihm die Möglichkeit gegeben, seinen Glauben zu erklären. Ja, kurze Möglichkeit. Ich habe ihn gefragt, nochmal neu. Glaubst du, dass Jesus Gott ist? Das ist die Zentrallehre der Kirche. Er hat gesagt, ja, Jesus ist wahr. Er weiß es. Da habe ich gefragt, weiß Gott alles? Dann hat er gesagt, ja. Dann habe ich gesagt, okay, dann weiß Jesus alles. Dann habe ich gefragt, und lügt Gott? Dann hat er gesagt, nein, Gott lügt nicht. Dann habe ich gesagt, in Markus 13, Vers 32, wird Jesus gefragt, wann ist der jüngste Tag? Dort sagt er, ich weiß es nicht. Es wissen nicht die Engel im Himmel, das weiß nur Gott. Die Frage ist, hat Jesus gelogen oder weiß er es nicht? Darauf hat er ihm gesagt, er weiß es nicht. Gut, wenn Gott alles weiß, dann hat Jesus nicht gewusst, dann ist Jesus nicht Gott. Dann würde ich Ihnen einen Tipp geben, Islam anzunehmen. Denn im Islam sagt Allah in Surah 5, Vers 16, und im Islam sagt Gott in Surah 5, Vers 16, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ. Diejenigen sind ungläubig, die sagen, Gott ist der Messias, der Sohn der Maria. Ja? Dann sagt er weiter, قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ يُحْلِكَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. Dann sagt er, sprich, wer kann gegen den wahren Gott etwas ausrichten, wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und allesamt, die auf Erden sind, vernichten will. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Und Allah ist das Königreich der Himmel und der Erde, was zwischen beiden ist. Er schafft, was er will, und Allah macht.
Vous voyez comment les musulmans sont très forts pour conduire des débats. On a l'impression de se trouver dans un tribunal où un avocat te dit juste de répondre par oui ou par non. Et ils disent, enfin lui il dit, on lui a laissé sa chance d'expliquer sa foi. Il lui a laissé aucune chance. Et c'est ce qui se passe dans tous les débats qu'il y a eu avec Ahmed Dida, qui a manipulé Jimmy Swaggart et qui a manipulé beaucoup de gens. Et ils sont sur l'estrade, ils ont la parole et ils conduisent, ils dirigent les choses comme ils les veulent. Alors, c'est sûr que face à une telle phrase, parce que ça c'est les enseignements que reçoivent tous les musulmans d'aujourd'hui, et ils travaillent énormément là-dessus, ils ne connaissent pas la Bible, ils connaissent que quelques passages comme ceci, pour attaquer l'évangile. D'ailleurs, si ça vous fait penser à quelqu'un, à qui ça vous fait penser? Non. La manière de faire. Okay. Plus ancien. Enfin, oui, plus ancien, je veux dire, que quelqu'un a vécu. Ça nous fait penser à Jésus dans le désert. Quand Jésus est dans le désert, le diable utilise la parole de Dieu. Mais le diable ne peut pas comprendre la parole, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et si on n'a pas le Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre la parole. Alors il est clair et évident que Jésus ne ment pas, et il est clair et évident que Jésus est Dieu. D'accord? Mais Jésus, l'espace d'une trentaine d'années, s'est fait homme, et il s'est fait totalement homme. Il s'est dépouillé de toute sa condition divine. Et ça, il faut comprendre ce que je suis en train de dire. Et plus que le comprendre, il faut le digérer et il faut savoir après l'expliquer. Donc pendant une trentaine d'années, Jésus s'est dépouillé de toute sa condition divine. Il a quitté son ciel de gloire et il s'est incarné en chair humaine pour montrer à l'être humain que les lois qu'il a données aux hommes, lui-même, il est capable de se les appliquer à lui-même en condition humaine. Autrement, pour Dieu, c'est trop facile d'appliquer la parole de Dieu. Mais il a fallu que Dieu se fasse homme pour expérimenter ce que l'homme expérimente. Or, qu'est-ce que expérimente l'homme? Il expérimente la faim, la soif, la fatigue, le rejet, l'angoisse, des sentiments, la tristesse, des sentiments que l'homme vit, Dieu a montré à l'homme qu'il était capable de comprendre. Et si Jésus n'avait pas passé par tout ce par quoi on passe, on ne pourrait pas dire que notre Dieu est proche de nous. Donc Jésus, l'espace d'une trentaine d'années, s'est dépouillé de toute sa condition divine. C'est pourquoi il est écrit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Donc ce temps-là de Dieu homme, c'est pas que Dieu devient homme et que Dieu n'est que là. Dieu est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent. Mais en même temps, il se fait homme. C'est l'ange de l'éternel. C'est la présence de Dieu que l'être humain peut supporter. Et là, quand il est sur terre, Jésus a besoin de prier pour connaître la volonté de Dieu. Voilà pourquoi il est écrit qu'il a passé des nuits à prier pour connaître la volonté de Dieu, qu'il ne faisait rien de lui-même. Mais ça, c'est pour montrer le modèle que nous avions à suivre. On ne doit rien faire de nous-mêmes. Jésus nous montre comment il faut faire pour avoir notre relation avec Dieu, comment il faut faire pour être conduit par le Seigneur. Et donc, il est le parfait modèle. Donc, le temps où Jésus est homme, il ne connaît pas le jour de la fin. Mais c'est juste ce temps-là où il ne connaît pas le jour de la fin. Parce qu'après, quand il retrouve sa condition divine, il connaît, il est Dieu, il est omniscient. Autrement, il ne serait pas omniscient. D'ailleurs, on parle de Jésus fils qu'à partir du Nouveau Testament. Avant, on ne parle pas de Jésus en tant que fils. On parlera de Jésus fils de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus n'est pas venu de la volonté de Marie, il n'est pas venu de la volonté de Joseph, mais il est venu de la volonté de Dieu seul. Alors, un enfant qui n'est que d'une femme et non pas d'un homme et d'une femme, ça peut être que l'enfant de Dieu. Dieu n'a pas eu de rapport sexuel avec Marie parce qu'il a été conçu par l'action du Saint-Esprit, on est d'accord? Donc Jésus a vécu la fin Jésus a vécu la fatigue. Jésus a vécu la douleur. Jésus a vécu l'angoisse. Nous voyons dans le jardin de Gethsémané, il a des angoisses tellement fortes qu'il en a des grumeaux de sang. Et ça, c'est scientifiquement prouvé, médicalement prouvé, qu'à un certain niveau d'angoisse, on a des grumeaux de sang qui coulent. Donc c'est pour dire que toutes les angoisses que tu as pu avoir dans ta vie, si tu n'as pas eu de grumeaux de sang, c'est que ton niveau d'angoisse n'a pas atteint celui que Jésus a atteint. Donc comprenez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc Jésus s'est fait homme. Et c'est comme ça que ça nous rassure, parce que finalement, il comprend ce par quoi nous passons dans notre vie quand on passe des épreuves. Et c'est très important, parce que les musulmans ne peuvent pas concevoir que Dieu ait pu avoir faim. Ils ne peuvent pas imaginer que Dieu ait pu faire caca, qu'il ait pu faire pipi. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu a été fatigué. Ils ne peuvent pas concevoir que Dieu ait pu mourir. Et tout ça, ce sont des questions auxquels vous risquez de faire face vis-à-vis des musulmans, auxquels vous devez aussi savoir donner des réponses concrètes, pertinentes. Parce que Dieu devait se sacrifier lui-même. Dieu ne peut pas mourir. Il est immortel. Jésus est immortel. Il n'a ni commencement de jour, ni fin. Il est l'alpha et l'oméga. C'est une réalité. J'entends pas beaucoup d'amen, mais c'est pas grave. Et donc, c'est vrai, Jésus, quand il parle aux pharisiens, il leur dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et là, sur cette parole, ils veulent le lapider. Pourquoi? Parce que, ils lui disent, parce que toi qui te fais, tu n'as pas 50 ans, toi qui te fais homme, tu te fais Dieu, quoi. Et c'est pour ça qu'on veut te lapider. Et quand il dit je suis, c'est pas n'importe quel je suis, parce que vous savez que le tétragramme YHVH, cette racine veut dire je suis. Et quand on vient arrêter Jésus, c'est ça qui est formidable. Et non pas formidable, formidable, c'est formidable. Quand on vient arrêter Jésus, c'est impressionnant. Parce que quand on vient l'arrêter, il dit qui cherchez-vous? Et là, quelqu'un dit on vient arrêter Jésus de Nazareth. Et dans nos Bibles en français, c'est écrit c'est moi. Mais en réalité, c'est pas écrit c'est moi. En réalité, c'est écrit je suis. Et si vous vous rappelez les Écritures, qu'est-ce qui se passe quand il dit je suis? Donc dans nos versions traduites du grec au français, c'est moi, en fait c'est je suis, tous les hommes autour qui viennent arrêter Jésus, ils sont tous terrassés à terre. Pourquoi ils sont terrassés à terre? Parce que quand il dit je suis, il dit clairement qui il est. Et quand il dit qui il est, c'est la présence de Dieu qui se manifeste. Et dans la présence de Dieu, je vous dis la vérité vraie, c'est celle-ci. Dans la présence de Dieu, il n'y a personne qui peut tenir debout, les bras en l'air. Dans la présence de Dieu, on est à terre, on est terrassé. La Bible parlera, certains sont dans la présence de Dieu réel, quand ils voient Jésus, enfin l'ange de l'Éternel ou un ange, qui sont terrassés à terre, saisis de crainte violente. C'est même écrit dans certains passages, à demi-mort, tellement que la crainte elle est violente. Dans la présence de Dieu, là. Oui, et c'est impressionnant, c'est ça la présence de Dieu, parce que quand on est dans la présence de Dieu, c'est la sainteté qui nous terrasse, parce que nous on est pécheurs, le péché habite en nous, et le péché ne supporte pas la sainteté de Dieu. Et là, quand Jésus dit « je suis », donc dans nos versions françaises c'est écrit « c'est moi », quand il dit « je suis », c'est toute la présence de Dieu qui se manifeste, et personne n'est capable de tenir debout. Parce que Jésus montre qui il est, c'est l'identité de Dieu qui se manifeste. Et quand ils sont à terre, il est obligé de reposer la question, Jésus, qui cherchez-vous? Et là, il dit, c'est moi, laissez partir ceci. Parce que Jésus doit donner sa vie. Il est écrit que Jésus dit, on ne me prend pas la vie, je la donne. S'il ne la donne pas, c'est impossible de prendre la vie à Jésus. C'est pourquoi Jésus donne sa vie. Autrement, il est impossible de tuer Jésus, il est impossible de crucifier Jésus. Et quand on croit tuer Jésus, on ne le tue pas. En réalité, c'est le chemin. Il doit passer par la mort, pour nous faire comprendre qu'il est plus fort que la mort, que nous on a peur de la mort, les êtres humains ont peur de la mort. Pourquoi? Parce que Dieu ne nous a pas créés pour mourir. Donc il n'y a pas la pensée de la mort dans la tête de l'homme, parce qu'on n'a pas été créé pour mourir, et le péché a mis la mort dans notre vie. Donc Jésus est obligé de passer par la mort pour nous faire comprendre qu'il est plus fort que la mort, que toi c'est la peur de la mort, moi j'ai vaincu la mort, donc n'aie pas peur. Et quand il meurt, Jésus n'est pas au chômage. Hein, il va passer 3 jours à travailler dans le séjour des morts, pas en enfer. Il faut faire la différence entre l'enfer et le séjour des morts. L'enfer, c'est la géhenne, c'est le lieu où actuellement il n'y a encore personne. Parce que c'est le jour de la fin, quand tous seront jugés, que là les gens seront envoyés en enfer. À l'heure actuelle, il y a ceux qui ne sont pas sauvés sont dans le séjour des morts. Et Jésus est entré dans le séjour des morts pour annoncer l'évangile à ceux qui n'avaient pas pu entendre l'évangile avant son arrivée sur terre en tant que fils de Dieu, en tant que sacrifice de Dieu. Vous comprenez? Et c'est très important ce que je suis en train de vous dire, parce que les musulmans vont tout faire pour attaquer l'évangile. Et un autre passage, quand on parle de... Il y a tellement de passages, mais j'ai pas le temps, malheureusement. Un autre passage, quand on parle de Jacob, qui dit qu'il a lutté contre Dieu, et qui il dit, j'ai vu Dieu, je vais mourir, j'ai vu Dieu face à face. Et les musulmans sont très très forts pour attaquer l'évangile, parce que on sait très bien que c'est impossible de voir Dieu. C'est vrai ou c'est pas vrai? On peut pas voir Dieu. Celui qui voit Dieu, il meurt. Et c'est la réalité, ce qui se passe avec Moïse. Dieu est obligé de cacher sa face, autrement Moïse meurt. Et comprenez ce que je suis en train de vous dire. Donc, est-ce que Jacob a vu Dieu? Il n'a pas vu Dieu, mais il a vu Dieu. Il a vu Dieu comment? Il a vu Dieu au travers de Jésus, l'ange de l'Éternel. C'est lui qui l'a vu. Et il n'a pas combattu contre Dieu. Il s'est battu avec Dieu. Et il faut bien faire la différence. La Bible en français courant écrit qu'il s'est battu contre Dieu. Non, il ne s'est pas battu contre Dieu. Et c'est vrai que c'est impossible pour un homme d'être plus fort que Dieu. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Ce passage, c'est clairement la conversion de Jacob. Parce que ce passage-là, Jacob lutte avec Dieu pour quoi faire? Parce que il en a marre de son identité. Il en a marre de son caractère. Il en a marre de cet héritage de lui qui pèse en lui, cet usurpateur, ce voleur, etc., qui a volé la bénédiction de son frère, etc. Il est toujours là à fuir. Il veut que quelque chose se passe. Et la conversion, c'est une transformation. La conversion, c'est un demi-tour. Et tu ne peux pas te convertir par toi-même. C'est le Saint-Esprit qui te convertit. C'est Dieu qui te convertit. Donc, là, il lutte avec Dieu, parce que sans Dieu, il est impossible de se convertir. Sans Dieu, il est impossible d'être transformé. Sans Dieu, il est impossible d'être délivré. Donc, il lutte avec Dieu et il dira, je ne te laisserai pas aller que tu ne m'aies béni. Et c'est ce qui va se passer. Donc, et c'est là qu'il va faire une pierre, une stèle, parce qu'en fait, c'est là qu'il dira, l'Éternel est devenu mon Dieu. C'est la conversion. Donc il n'a pas battu, il s'est pas battu contre Dieu, et quand il dit qu'il a vu Dieu face à face, en fait il a vu la manifestation de Dieu à travers l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Jésus. Jésus qui se manifeste dans l'Ancien Testament. Et ça, on doit le voir avec les yeux de l'Esprit Saint. Donc concrètement, je vous le dis, mes frères et sœurs, les musulmans forment des disciples pour islamiser les chrétiens, au point même qu'ils ont créé un site qui s'appelle aimerjesus.com. C'est un site islamique, c'est pas un site chrétien. Avec des phrases clés à l'intérieur. Jésus a-t-il été crucifié? Jésus est-il le Fils de Dieu? Mohammed dans la Bible. La Bible a-t-elle été falsifiée? De témoignages soi-disant de pasteurs devenus musulmans. Donc, ayez du discernement. Tout ce que vous pouvez entendre, ça doit vous pousser à mieux connaître la parole de Dieu, parce que la Bible ne peut pas se contredire. Voilà pourquoi quand j'enseigne la parole de Dieu, j'aime bien étudier d'après les textes originaux, c'est-à-dire le grec ou l'hébreu, comme on l'a constaté sur le premier message. Donc, moi, mon rôle, c'est de vous faire prendre conscience que on doit être des disciples de Jésus. Et un disciple se forme. Comme à l'heure actuelle, les musulmans forment des disciples pour islamiser, nous, on doit former des disciples pour évangéliser les musulmans. Pourquoi les musulmans? Parce que ce sont les enfants d'Abraham et qu'ils ont reçu une très grande bénédiction. On ne pourra pas compter ta descendance à Agar tellement qu'elle sera nombreuse, et c'est vrai. Ça, c'est une bénédiction qui est sur le peuple arabe, le peuple musulman. Et donc, ce peuple-là doit être racheté. Et comment on pourra se convertir si personne ne leur parle de Jésus? Comment pourront-ils se convertir si on ne parle pas de l'évangile avec son authenticité, toute sa puissance? Et ce sont des réalités que je vous dis, et on doit sonder les Écritures. On doit sonder la parole de Dieu. On doit nous pousser chacun les autres à mieux connaître la parole de Dieu pour mieux la présenter aux musulmans. Là, c'est trop court ce qu'on a vu, mais concrètement, les migrants, la première chose qu'ils doivent voir en vous, c'est l'amour. Chose qui n'existe pas dans l'islam. La compassion. Chose qu'ils doivent voir en vous, c'est l'équité. De voir que tu es juste, que tu ne fais pas de distinction de personne. Chose qu'il doit voir en toi, c'est la justice. Chose qu'il doit voir en toi, c'est la sainteté. Et ça, c'est hyper important. Parce que les musulmans parlent de sainteté, mais ils ne sont pas saints parce que l'islam ne peut pas changer un cœur. Votre regard doit faire la différence. Votre langage doit faire la différence. Votre attitude doit faire la différence. Et sachez que l'esprit de l'islam est un puissant démon. C'est pas un petit démon, c'est un très grand démon, c'est l'un des plus grands démons qui existent. Et ce démon-là, Jésus dira, il y a certains démons qui ne sortent que par le jeûne et la prière. Donc, je vais conclure par ces cinq points, rapidement, cinq points, pas cinq points, parce que là j'ai vu un premier point, non, je gueule. Mais je vais finir par ces cinq points-là. Les musulmans ont une discipline de fer dans l'islam. Ils n'arrivent pas en retard à la mosquée. Ils font les ablutions, comme les juifs font les ablutions. Le musulman, les cinq points de l'islam, ce sont cinq piliers. Le premier pilier de l'islam, c'est la shahada. La shahada, c'est la confession de prière islamique. Et cette prière dit, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Cette prière dit, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Muhammad est son prophète. Donc, pour devenir musulman, tu dois réciter cette prière trois fois. Donc, Muhammad est lié à Allah. Donc, Muhammad a autant de place que Dieu, si ce n'est plus pour les musulmans. Ça, c'est le premier pilier. Pour nous, notre pilier, ce serait « La ilaha illallah, sidna Isa ibn Allah ». Notre pilier. Ça veut dire il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Jésus est son fils. On est d'accord? On va passer par la question. Deuxième pilier, c'est les cinq prières par jour. Les musulmans font cinq prières à des heures précises. Et ils s'appuient ils doivent respecter, c'est pas 5 minutes avant, c'est pas 5 minutes après, c'est à leur pile, ils font la prière, et les musulmans n'ont pas honte de faire la prière devant les gens, qui sont même dans la rue, même à leur travail, ils n'ont pas honte. Et nous, on manque des fois d'audace à ce niveau-là, parce qu'on a honte de prier, on a honte lors d'un repas, de prier devant tout le monde, on a honte. Et plein de choses, et eux n'ont pas honte. Et ils doivent prier tous en direction de la Mecque. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Troisième pilier, c'est le jeûne, c'est le ramadan. Et pendant le ramadan, toute la planète Terre, il y a des centaines de millions de musulmans qui sont constamment dans le jeûne pendant un mois. Et quand ils jeûnent, il y a une discipline, il y a une rigueur, parce qu'ils vont pas dire, oh allez, je vais prendre un petit verre d'eau. Nous, des fois, dans notre jeûne, on se dit, bon, ben, j'ai soif, je vais boire un peu. Et on doit être hyper discipliné dans le jeûne. Et les chrétiens doivent jeûner. C'est une réalité. Jésus dira, il y a certains démons qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc, ça veut dire que on doit jeûner. Il y a certains pharisiens qui viennent attaquer Jésus, disent, pourquoi nous on jeûne et tes disciples ne jeûnent pas? Et Jésus dit, peuvent-ils jeûner pendant que le peuple est avec eux? Non, viendra le temps où ils jeûneront. Ça veut dire qu'on est dans un temps aussi où on doit jeûner. Si les musulmans jeûnent, je jeûne encore plus que eux. C'est pas une question de rivalité. Ça veut dire que je comprends que dans les cieux célestes, il y a quelque chose qui se passe au travers le jeûne. Quatrième pilier, c'est l'offrande, c'est la zakat, la dîme. Et les musulmans sont hyper disciplinés avec l'offrande. J'entends malheureusement beaucoup des chrétiens qui disent « Oui, il faut pas acheter halal parce que ça subventionne le terrorisme, ça subventionne la construction de mosquées. » C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est vrai et c'est n'importe quoi. Pourquoi c'est vrai et c'est n'importe quoi? C'est vrai et c'est n'importe quoi parce que toi, chrétien, si tu veux investir pour l'église, tu veux investir pour l'église. C'est normal, non? Le musulman investit pour la mosquée. Donc, c'est normal qu'il investisse pour la mosquée. Mais le musulman sera extrêmement fidèle à ce qu'il devra donner. J'en veux pour preuve qu'en Algérie, par exemple, mon père qui était directeur de banque, il avait certains clients qui étaient fortunés. Et donc, il disait à mon beau-père... tu calcules exactement 10% de toutes les rentrées d'argent que j'ai eues, et les 10%, tu les donnes à la mosquée. Donc, ils sont fidèles. Et nous, malheureusement, on n'est pas vraiment tous fidèles pour la dîme, pour l'offrande, pour l'œuvre de Dieu, pour le royaume de Dieu. Eux le sont. Le cinquième pilier, c'est le pèlerinage à la Mecque. Et donc, le pèlerinage à la Mecque, tu dois le faire sans crédit. Tu dois laisser aucune dette derrière toi. Parce que si tu meurs, les gens de ta famille doivent avoir aucune dette. Donc, il y a une discipline de faire. Et cette discipline, c'est ça qui donne de la puissance à l'esprit de l'islam. Et nous, on a besoin de discipline. Parce que s'il y a de la discipline, on va libérer la puissance du Saint-Esprit. Et c'est très important. Parce que des musulmans, s'ils voient des chrétiens indisciplinés, ils vont se dire, c'est quoi ça? S'ils rentrent dans l'église et qu'ils voient une Bible par terre, ils disent « c'est quoi ça ?» Parce qu'ils personnalisent les livres de Dieu, les musulmans. Au point que beaucoup de musulmans vous diront que le Coran ira au paradis. Donc c'est pour vous dire, s'ils voient votre Bible par terre, s'ils voient que votre Bible est surlignée, ça va en choquer. Au point même qu'ils vont te dire « tu n'as pas la crainte de Dieu ». C'est pour ça, il y a énormément de choses à dire, je ne peux pas tout vous dire, parce que le temps est trop court et il faudra beaucoup plus de temps. Mais le diable était très fort pour voler les principes bibliques et les faire appliquer à l'islam. Jésus dira, faites de toutes les nations des disciples, l'islam travaille pour faire de toutes les nations des disciples islamiques. Et ça, ils travaillent, ils investissent des millions, des milliards pour islamiser le monde. Ils ont appliqué des principes bibliques, ils ont des piliers qui enracinent, qui fortifient la foi des musulmans dans ce en quoi ils croient. Et nous, c'est quoi nos piliers? Et nos piliers doivent être encore meilleurs que leurs piliers. Et ça, c'est très important. Ces cinq piliers devraient être des piliers. À la base, ce sont des piliers de l'évangile. Mais les démons, on parle du diable comme le singe de Dieu, ils copient. Ils copient, j'ai pas le temps de tout vous dire là-dessus, mais bon, voilà. Donc, voilà, ce matin, vraiment, il faut faire un travail de discipulat, de discipline. Et c'est au travers de votre discipline, votre amour, votre compassion, que la connaissance aussi, que les musulmans seront touchés. Ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Même si vous manquez de connaissances, le Saint-Esprit peut utiliser votre bouche. Et moi, à chaque fois que je parle à un musulman ou à un non-musulman ou à un athée, j'ai toujours des paroles de connaissances ou des paroles prophétiques. Au point que ça choque les gens quand je parle avec eux, parce que je les connais pas. Mais c'est pas moi qui les connais, c'est le Saint-Esprit qui habite en moi, qui n'a aucun secret pour ces personnes. Donc si vous avez le courage d'ouvrir la bouche, vous serez surpris par ce qui sortira de votre bouche, parce que le Saint-Esprit veut confondre. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui, son ministère de convaincre, de péché, de justice, de jugement. C'est pas mon ministère de convaincre, c'est le ministère du Saint-Esprit. Lui, c'est le plus grand des évangélistes, c'est lui qui est plus intéressé que toi à ce que le monde soit sauvé. C'est vrai ou c'est pas vrai? J'aurais voulu passer une vidéo, mais j'ai pas le temps. C'était sur le ministère de Jérémie. Mais maintenant, je pense qu'il y a un temps question-réponse. Oui? Oui. La raison particulière, c'est parce qu'en fait, Mohammed est en train de discuter soi-disant avec Dieu. Et Dieu, il a dit, vous devez prier un nombre de fois interminable. Après, il négocie avec lui. Puis après, il réussit à diminuer à 70 fois. 70 prières par jour. Il dit, ça en fait encore trop. Et puis là, finalement, Dieu, il dit 5. Puis finalement, Mohammed, il accepte 5 prières par jour pour être en soi-disant communion avec Dieu. Donc les musulmans, quand ils font leurs 5 prières par jour, ils font des récitations. Ils récitent les prières que Mohammed a récitées. Parce que Coran, en arabe, ça veut dire Qur'an, ça veut dire récitation. Donc les musulmans doivent réciter, ils doivent connaître par cœur, sans comprendre. C'est pas le but, c'est pas de comprendre, le but c'est de réciter. Oui, 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 c'est enseigné. Bien sûr. 5 prières par jour. Et c'est à des heures fixes de la journée, donc de l'aube jusqu'au soir. Ah ben ça les touche. C'est pour ça que je dis, il faut démontrer notre foi. Il faut qu'ils entendent comment on prie, parce que ça les touche. Parce que ils n'ont pas cette intimité que nous avons avec Jésus. Ils n'ont pas cette intimité que nous avons avec Dieu. Et là où il faut travailler, c'est avoir un langage, non pas chrétien, mais un langage adapté à ceux qui nous entendent. Parce que si tu pries, oh j'invoque le sang de Jésus, il va te prendre pour un fou. Tu vois, c'est, oh, les gens du monde. Ça veut dire quoi, les gens du monde? Donc, il y a un langage qu'on doit, on doit retrouver un langage humain. Je dis pas un langage pécheur, mais voilà. Hein. Si je dois parler à un agriculteur, je vais pas lui parler avec un langage de biologiste ou de cosmonaute. C'est bon? Oui. Alors, oui, ça c'est l'islam. C'est pas que ce sont des textes différents, c'est que, en fait, je vais répondre à sa question et ensuite je viens sur toi. Tu as des Bibles en arabe. D'ailleurs, en arabe, quand on parlera de Dieu, ce sera écrit en arabe dans la Bible, Allah. C'est pour ça que là aussi, les chrétiens ne doivent pas être trop religieux, dans le sens que, ah non, tu es chrétien, tu peux plus prier Allah. Allah, d'accord, c'est le Dieu de la lune, mais si tu pries Dieu, quand tu pries Dieu D-I-E-U, les quatre lettres D-I-E-U, la racine de Dieu c'est Zeus, une autre racine de Dieu c'est Théo. Or, ça c'est, on voit l'héritage gréco-romain, mon Dieu c'est pas Zeus, c'est pourtant, même si j'utilise ce nom-là, Théo c'est la tête, et c'est ce qui est l'intelligence, donc les Grecs élevaient la pensée humaine, l'intelligence humaine, c'est ça qui les intéressait. Donc moi je ne crois pas en Théo, et je ne crois pas en Zeus, je crois en Elohim, Elohai, mais bon, on l'a traduit en Dieu, et on se comprend quand on prie Dieu. Donc le musulman qui prie Allah, tu dois comprendre qu'il, celui qui est converti ne prie plus le Dieu de la lune, mais il prie celui qui a envoyé son fils bien-aimé. Donc, tu as des traductions en arabe, je ne sais pas s'il y en a plus. Je pense qu'il y en a quelques-unes, pas énormément par rapport au français, parce que la langue arabe est bien plus riche que la langue française. Et tu as aujourd'hui des traductions du Coran en différentes langues dans le monde. Pourquoi ils ont commencé à traduire alors que c'est interdit? C'est interdit de traduire le Coran. Et ils l'ont fait parce qu'ils ont vu que les chrétiens gagnaient beaucoup de gens dans le monde. Donc pour concurrencer, ils ont du coup traduit le Coran en différentes langues dans le monde. Et tu peux voir plusieurs traductions du Coran en français. En fait, le truc, en Occident, la plupart des Arabes ne savent pas lire l'arabe. Les jeunes surtout. Les anciens, à la rigueur, ils pourront lire l'arabe. Mais les jeunes, non, parce qu'ils se sont européanisés. Donc, il vaut mieux parler en français. Après, si tu parles de l'Injil, il va comprendre que tu parles de l'Évangile, c'est très bien. Après, si tu veux parler de ce que toi tu es, dans le Coran, on parle de nous en tant que les gens du livre. Les gens du livre, ça représente les juifs et les chrétiens authentiques. Donc, bon, Ahlal Kitab en arabe, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne sait pas se présenter, les musulmans ne savent pas voir qui on est exactement. Et ma famille, pendant longtemps, croyait que j'étais témoin de Jéhovah. Mais bon, maintenant, je sais dire qui je suis. Tu disais, oui, il y a les sunnites et les chiites, ils ont le même Coran. En fait, les sunnites et les chiites se disputent parce que ils reconnaissent pas le même disciple de Mohammed. Ça veut dire que les sunnites reconnaissent Al-Bukhari comme le disciple direct de Mohammed, et les chiites reconnaissent Ali. Et parce qu'ils sont pas d'accord sur le descendant de Mohammed pour représenter l'islam, le calife quoi, il y a une guerre violente entre eux. Bon, après chez les chiites, il y a des pratiques qui sont assez charismatiques, étonnantes, choquantes. Mais il y a des trucs très très bizarres. Mais la plus grande vague de musulmans dans le monde, ce sont les sunnites. Bien sûr, de Syrie, il y aura quand même pas mal de chiites. Parce que la Syrie, l'Irak, il y a pas mal de chiites. Mais eux-mêmes sont percés par les sunnites. Parce que les sunnites, c'est peut-être 85% des musulmans dans le monde, les sunnites. En fait, le Coran, quand Mohammed est mort, parce que du temps de son vivant, c'était interdit d'écrire le Coran. Parce que voilà, c'est pour ça qu'on dit récitation, ça se transmettait par cœur. Donc, Mohammed disait que c'était interdit d'écrire le Coran parce qu'on allait le souiller en l'écrivant avec notre chair. Donc, quand Mohammed est mort, les califes, les disciples de Mohammed, ont voulu traduire pour pas oublier. Et c'est quand il y a eu les traductions qu'il y a eu à peu près entre une vingtaine et une trentaine de Corans différents. Et là, on parle de Corans différents, vraiment différents. Et jusqu'à ce qu'il y ait un des califes de Mohammed qui lui, a commencé une guerre fratricide. Parce qu'il a décrété que c'est lui qui avait l'authentique Coran. Donc, il a gagné cette guerre fratricide. Il a tué tous les autres musulmans qui n'étaient pas d'accord avec lui, et toutes les autres versions du Coran, il les a brûlées. Donc c'est sur sa version à lui, sur son Coran à lui qu'on se base aujourd'hui, sur le Coran. Mais on ne sait même pas si si c'est authentique ou quoi que ce soit. Maintenant, le Coran, concrètement parlant, c'est un livre qui se contredit. Alors les musulmans vont dire qu'il ne se contredit pas, mais c'est un Coran qui parle de paix, et en même temps qui va contredire la paix en disant de tuer les juifs et les chrétiens, de les combattre, Oui, mais bon, les dernières paroles de Mohammed avant de mourir, c'est maudissez les juifs et les chrétiens, combattez-les. Ça, ce sont ses dernières paroles avant de mourir. Donc Jésus enseignera dans Matthieu 5 de mémoire, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous persécutent. Donc il y a un langage totalement différent. Jésus est venu bien avant Mohammed. Donc après, il y a beaucoup de choses qui nous séparent. Parce que moi, je ne peux pas concevoir qu'on puisse se prosterner devant qui que ce soit, si ce n'est Dieu. Mais dans le Coran, l'histoire de la Genèse, la chute du diable, elle n'a rien à voir avec la chute que nous avons. Parce que le diable a chuté dans l'islam, parce que Dieu a demandé à tous les anges de se prosterner devant Adam. Et donc Lucifer n'a pas voulu se prosterner devant Adam. C'est comme ça qu'est venue la chute de Lucifer dans l'islam. Alors que c'est pas logique que des anges puissent se prosterner devant un être humain. Donc là, on voit qu'il y a quelque chose de totalement déformé, qu'on n'a pas le même Dieu, qu'on n'a pas la même foi, parce que même dans la Bible, quand Jean veut se prosterner devant un ange, il lui dit « Relève-toi, je suis que ton compagnon de service, quoi ». Donc on peut même pas se prosterner devant un ange, et là, le Coran parle que les anges doivent se prosterner devant l'être humain que Dieu a créé. Donc il y a un non-sens, parce que le seul devant qui on peut se prosterner, c'est Dieu. Donc on voit que le diable déforme tout, et si je devais tout dire, on devrait passer la semaine. Oui. Oui. Bien sûr. Mais malgré tout, ils font quand même le ramadan. Ah oui. Non, parce que dans l'islam, le ramadan, ce qui n'est pas la même chose dans l'évangile, si tu fais le ramadan, tu es pardonné de tous tes péchés. Le ramadan ne te pardonne pas de tes péchés. Nous, dans l'évangile, c'est la repentance à Christ qui fait qu'on est pardonné de nos péchés. C'est ça qui est vraiment la sanctification. Donc, pour les musulmans, dans l'islam, le démon de l'islam contraint les musulmans à croire que, en jeûnant, ils vont être pardonnés de tous leurs péchés. C'est pour ça qu'ils sont très assidus sur le ramadan. Oui, mais ça, ils ont bien. Oui, mais pour faire croire que c'est de l'ignorance aux musulmans qui sont aveuglés et sourds, c'est compliqué. Il faut bien comprendre que ce n'est pas théologique ce qu'on est en train de faire quand on parle à un musulman, c'est un combat spirituel. Donc, quand je suis face à un musulman, je prie. Si je sais que je vais le voir, je prie avant. Si, pendant que je suis avec lui, je prie. Et après l'avoir quitté, je continue à prier. Parce qu'il y a vraiment un esprit d'aveuglement derrière. Et bon, j'ai pas le temps d'expliquer pourquoi ils doivent jeûner, mais quand je reviendrai, Dieu voulant, si vous voulez me réinviter, j'expliquerai pourquoi ils jeûnent. Mais vraiment, il y a dans l'islam, il y a la notion d'obligation. Nous, en Christ, on n'a plus la notion d'obligation. On dit on est sous la grâce, mais il y a tellement de chrétiens qui sont sous la grâce, qui sont tombés dans la grâce mat. Ça, c'est terrible. Oui. Et c'est là qu'on va se dire, oui, on est sous la grâce, mais si tu te fais arrêter par la police, comme ce matin, je crois qu'on s'est fait flasher, tu sais qu'elle t'est limitée à 90, si tu roules à 110 ou à 120, qu'un policier t'arrête, tu vas pas dire au policier, je suis désolé, je suis sous la grâce, je suis plus sous la loi, donc tu peux pas me mettre un ticket. Il va te prendre pour un fou, le policier. Donc s'il y a des lois dans ce monde, il y a aussi des lois dans le monde spirituel. Et on a des règles aussi à avoir dans la parole de Dieu qu'on doit respecter. C'est très très important d'avoir ces règles, d'avoir cette discipline. Un sportif de haut niveau, il a des règles à appliquer. un soldat, il a des règles à appliquer, un laboureur, il a des règles à appliquer, et le chrétien aussi, il a des règles à appliquer. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens croient qu'on est sans règles, parce qu'on est sous la grâce. Et si t'as pas de règles, il n'y a pas de repères, je suis désolé. Oui. Oui, je t'ai dit qu'on a du matériel, mais je l'ai dit rapidement entre deux mots que tu veux dire. Je t'ai dit oui. Oui, alors il existe. Il faudrait qu'on soit en contact. Il y a des petits fascicules qu'on a pu faire en parlant de Jésus et de Mohamed. Donc sur une seule page, partagée en deux, Jésus et Mohamed, Jésus dans la Bible, Jésus dans le Coran, Oui. Oui. Énormément. L'islam est hyper superstitieux, mais comme je dis, on peut pas tout voir. En une matinée extrêmement courte comme ça a été, j'ai l'impression d'avoir fait un sprint comme un marathon. Donc tu vois, généralement, je parle pas aussi vite quand je prêche, mais parce que là, c'est hyper condensé, et je peux pas tout dire. Mais je t'imagine, donc, si je devais tout dire, je te dis, il faut faire plusieurs séminaires, parce que c'est comme la Bible, tu peux pas parler de la Bible en une matinée, il te faut des années, je dis pas qu'il faut des années pour connaître l'islam, mais il faut plusieurs séminaires, et des séminaires où on a quand même quelques jours à s'asseoir, où on a le temps vraiment de parler comme il faut, parce que là, j'ai l'impression j'ai l'impression d'avoir couru, et de pas avoir pris le temps de poser des fondations solides, mais bon, je sais pas comment vous prenez l'enseignement que vous recevez, mais moi, j'ai l'impression comme si j'avais dû faire quelque chose de très rapide, mais dans ma faiblesse, je prie que le Seigneur fasse que ce que vous recevez ce matin soit quelque chose de puissant, quoi, de... Non. C'est pour ça qu'on peut pas se dire, voilà, l'islam c'est comme ça, l'islam c'est... En fait, si tu veux, la première chose, c'est oui, mais l'amour c'est un mot qui est trop grand. La première chose, c'est vraiment la démonstration. Et ça c'est hyper important. La démonstration. Un jour, il y a un adolescent, il est rentré dans une boulangerie, et dans cette boulangerie, c'était un musulman, donc il lui achetait son pain habituellement là. Et puis, ce jour-là, ce jeune adolescent, il rentre dans la boulangerie, et il dit au musulman, « Je t'aime de l'amour de Jésus !» Et le musulman, il entend le gamin qui lui dit ça, et ça fait un court-circuit dans sa tête. Il dit, mais pourquoi, je lui donne le pain gratuit, s'il veut lui dire, prends ton pain, et vas-y, pars! Il dit ça. Et donc, le musulman, ce que le gamin lui a dit, ça arrêtait pas de résonner dans sa tête, c'était vraiment un tsunami, une perturbation terrible, et ça, il n'arrivait pas à enlever cette phrase de sa tête, je t'aime de l'amour de Jésus. Et toute la nuit, je t'aime de l'amour de Jésus. Et c'est cette nuit-là que Jésus s'est manifesté à lui, il s'est converti. Donc, ce gamin, il n'a pas fait une formation. Mais souvent, le Seigneur utilise des gens qui ne connaissent pas, mais parce qu'il y a une audace. Oui. C'est... Oui. Oui. Alors, tu permets que je réponde. On n'est pas contradictoire. Non. La parole de Dieu, c'est le seul livre que je connaisse où il y a autant de... Non. Je perds le mot. C'est pas des contradictions. C'est le sens de la contradiction, mais ce n'est pas une contradiction. Non. Paradoxe. La Bible, c'est le seul livre où il y a autant de paradoxes. Et quand je prêche, c'est une prédication avec des paradoxes. Ça veut dire qu'autant je peux toucher un musulman sans avoir de formation, autant je dois le toucher avec la formation. Et les deux ne vont pas sans l'autre. Parce qu'autrement dit, ça voudrait dire que tu ne peux pas compter sur le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit est tout puissant. Et heureusement qu'il y a le Saint-Esprit, parce que parfois on fait des erreurs, et dans nos erreurs, le Seigneur connaît. Quand on est dans l'ignorance qu'on ne sait pas, le Saint-Esprit agit. Mais quand tu sais que tu peux connaître, là tu as le devoir d'apprendre. Tu vois? Et c'est pour ça que ce musulman qui s'est converti devant cette adolescence, ce n'est pas une généralité. Ça s'est passé pour un. Mais de manière générale, par rapport à ces exceptions, la connaissance et la formation est de rigueur. Un soldat, je ne peux pas imaginer qu'un soldat puisse partir en guerre s'il ne sait pas manier une arme. Je ne peux pas imaginer qu'un soldat ne puisse partir en guerre s'il ne sait pas supporter la souffrance, la douleur, la disette, la faim, s'il ne sait pas supporter tout ça. Donc on doit savoir faire face à tout cela, ça demande de l'entraînement. Et c'est pourquoi on vient à l'église, pour s'équiper, se former. Et c'est très important. Voilà pourquoi on doit lever des ouvriers, les former, les envoyer. C'est très important. Le discipula. Donc, on compte sur la connaissance et on compte sur l'Esprit de Dieu. L'un ne va pas sans l'autre. La connaissance de la parole. Oui. Oui. Avant. Oui, il y a ça aussi. Bien sûr. Mais la première chose, c'est la connaissance de la parole. Au point de vue de la connaissance, la première chose importante, c'est la connaissance de la Bible. Deuxième chose, c'est connaître l'autre. Et tout cela ne va pas sans l'esprit, et tout cela ne va pas sans l'amour. Parce que s'il n'y a pas l'amour, je peux être radical, je peux être dur, légaliste. Voilà. Or, l'amour est indispensable à tous les dons que je peux manifester. Il n'y a plus de questions? Encore deux? Ok. Après, je viens à toi. À Philippe. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Il dit ça à Philippe. Il n'est pas quoi?
Il n'est pas dit.
Oui. Oui.
Et il est venu réconcilier le monde avec lui-même. Parce que moi, j'essaie toujours de me mettre d'essayer de comprendre comme les musulmans nous voient.
Ils sont très terre à terre, très charnels dans la compréhension des choses, et surtout il n'y a pas le Saint-Esprit. Donc sans le Saint-Esprit, tu vas te déformer comme le diable il l'a fait en attaquant Jésus dans le désert. Bien sûr, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est fils de Dieu? Parce que ça, j'ai pas fini de répondre tout à l'heure, parce qu'on aurait pu, c'est très très long pour expliquer le Jésus en tant que fils. Et on a vu tout à l'heure qu'il a utilisé que celui qui dit que le Messie est Dieu, c'est écrit le verset coranique qu'il a cité dans la sourate 5. Mais qu'est-ce qui fait que Jésus est fils? Parce qu'il est sans péché. Aucun. Oui, mais attention. Les reproches que les juifs font sur Jésus, c'est pas qu'il a été prophète pour eux, c'est qu'il a remis en cause les traditions. Oui, mais c'est surtout qu'il a remis en cause les traditions. C'est surtout ça qui a fait qu'ils ont voulu le crucifier. Parce que pour les juifs, les religieux, la tradition était plus importante que la parole de Dieu. Et ça, c'est pour ça que, il y a d'ailleurs un rabbin à l'heure actuelle qui prêche sur Internet, et une de ses prédications que j'ai écoutées, il dit, qu'est-ce qu'on a contre Jésus? Jésus, qu'est-ce qu'il y a contre? Qu'est-ce qu'on a contre Jésus? J'essaie de parler avec comment il parle. Il dit, c'est miracle. Non, on n'a rien contre ces miracles. Nous, qu'est-ce qu'on a contre lui? C'est qu'il a remis en cause nos traditions. C'est ce qu'il dit le rabbin à l'heure actuelle concernant Jésus. C'est qu'il a remis en cause les traditions des Juifs. C'est pourquoi Jésus Jésus, il est irréprochable. Mais l'homme est très reprochable. Il fallait trouver quelque chose pour pouvoir le crucifier. Et même Pilate, mais ils ont trouvé des faux témoins aussi. Hein. Et les faux témoins, ça fonctionnait pas. Ils l'ont pas eu. Il s'est donné. Ils ont même pas pu l'avoir parce que Pilate, il a dit, choisissez entre lui et Barnabas, celui que vous voulez libérer. Et ce sont les religieux qui ont poussé le peuple à choisir Barnabas, donc un criminel, plutôt que quelqu'un qui était sans péché. C'est pour ça qu'ils l'ont pas eu. Jésus s'est donné. Parce que s'il ne se donne pas, c'est impossible de l'avoir. Trouver que Jésus se fait Dieu. Pour le lapider. Ouais, mais sans qu'il l'ait dit. Voilà, mais il les laisse comprendre, mais sans l'avoir dit, parce qu'il fallait pas qu'il dévoile qui il est concrètement, parce que même quand les démons se manifestent, il fait taire les démons pour pas qu'ils disent qui il est, parce que les gens ne doivent pas savoir. Elle avait une dernière question, je crois. Non, ils ont une relation que pendant la prière. Oui. Oui, c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, c'est ce que je dis avec les musulmans. Je suis constamment en relation avec lui. Quand je vois quelqu'un dans la rue, je prie le Seigneur pour l'homme que je vois dans la rue. Alors que eux, ça va être pendant. Voilà. Bon, après, ils vont avoir les actes. Hein. Eux, s'ils peuvent aider quelqu'un, pour eux, ils gagnent des bons points. Ils appellent ça des hasanettes. Donc il y a l'ange qui est sur l'épaule droite et l'ange sur l'épaule gauche, et l'ange sur l'épaule droite écrit les bonnes actions, et l'ange sur l'épaule gauche écrit les mauvaises actions. Donc... Non. Ben oui, mais ce sont deux choses totalement différentes. Hein. C'est plein de traditions, de rituels dans l'islam. Dans le judaïsme aussi, c'est plein de traditions et de rituels. Nous, on n'a pas de tradition... Enfin, hormis de lire la parole, j'espère, et prier. Ça, c'est, il faut vraiment que ce soit, il faut pas que ce soit une routine, mais il faut que ce soit notre pain quotidien, la lecture de la parole, et la prière, et les actes. Mais il faut vraiment, comprendre qu'on est dans deux mondes différents, entre l'islam et l'évangile. Et d'ailleurs, beaucoup d'occidentaux et beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes, beaucoup de jeunes filles se convertissent à l'islam, parce qu'elles sont séduites par l'islam. Parce qu'ils confondent la culture et l'islam. Et la culture orientale attire les occidentaux. Et elle attire les occidentaux pourquoi ? Parce que les occidentaux font un rejet du catholicisme, qu'ils considèrent comme christianisme. Et ce rejet du passé, donc ils se cherchent une nouvelle culture. Voilà pourquoi autant d'occidentaux sont attirés par autre chose que le christianisme, entre guillemets, qui en fait c'était l'image du catholicisme qui a pesé énormément sur les mentalités d'aujourd'hui, au point que les gens d'aujourd'hui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Ils préfèrent entendre parler de Mohammed, ils préfèrent entendre parler de Bouddha, mais pas de Jésus, à cause du passé catholique qui a fait énormément de dégâts. Donc voilà, donc nous on a une relation personnelle, pas dans l'islam. J'ai répondu. Donc voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Priez pour nous, pour l'Algérie, pour l'œuvre d'implantation d'église qu'on fait là-bas, pour que les autorités aussi dans les pays arabes reconnaissent le droit à la liberté de religion, entre guillemets. Et il y aura tellement de choses à dire, mais voilà. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse abondamment. J'espère que vous avez apprécié ce moment.
Merci, pasteur Garib. Alors, si vous êtes d'accord, il peut y avoir une journée de formation, puisque notre frère nous a parlé qu'il serait désireux aussi, et si vous êtes désireux de qu'on le reçoive à nouveau, mais peut-être prendre toute un samedi, par exemple, ou un week-end, ou un samedi-dimanche, bon, suivant les possibilités. Voilà, ce serait un enseignement où on prendrait le temps. On prendrait le temps, il y aurait beaucoup plus de temps pour poser des questions et recevoir et être formé. Hein. Si c'est votre désir, je pense que là, ça peut se faire. Voilà. Qui serait pour ? Donc, Voilà, on est tous pour nous. Donc, voilà, Garib, ça te condamne à revenir. On choisirait une date, hein, on choisirait une date pour que tu reviennes, soit une journée entière ou alors un week-end, voir un petit peu comment on peut faire. Voilà. Merci en tout cas. Merci Joël aussi d'avoir conduit mon frère Garib. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, au niveau des annonces, mardi, il y a une réunion de prière ici à 19h. Soyez présents. On a parlé de la discipline, mais disciplinons nos vies pour être présents au moment de prière. Je crois que c'est important. Hein, nous sommes le temple du Saint-Esprit. On devrait prier, même quand on ne prie pas, on est en relation avec le Seigneur. C'est ce qui a été dit. Hein. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, vendredi, le pasteur Mike Williams sera présent pour enseigner l'Apocalypse, pour la neuvième étude, donc sur l'Apocalypse à 19h vendredi. Dimanche, mercredi, il y a une réunion de prière à Malone avec le frère Loulou, hein, 10h45, hein, là, il s'en occupe. Dimanche prochain, nous avons un culte inter-église à Champion. À 10h45, 52, rue de Fernelmont, 5020, Champion. Donc, c'est très important. À 10h45, si jamais quelqu'un oublie, il y aura une affiche de toute façon, et il reste encore 3/4 d'heure pour arriver. Donc, ça va, normalement, ça se passera bien. Donc, à Champion, culte inter-église, avec Didier Likeng, qui est un grand chanteur de gospel, qui nous enseignera aussi sur la musique négro spirituel, gospel, etc. Tous ces types de musique, magnifiques, quoi. Hein, on ne peut pas en dire plus ici. Le 1er novembre, Michael Williams sera ici pour apporter la parole aussi. Ça, il faut se le dire. Voilà. Donc, on va terminer par la prière. Oui. Voilà, les calendriers, la bande semence, il y en a d'autres aussi, et d'autres venant du bon livre. Oui. D'accord, ok. Oui. Voilà. Nous prions pour terminer notre culte. Seigneur, nous voulons vraiment te remercier pour tout ce que tu nous as apporté par notre frère Garib. Seigneur, merci pour cette parole que nous puissions retenir les enseignements qui ont été donnés, les conseils qui ont été donnés, la parole que nous avons étudiée aussi, tous les versets bibliques, que nous puissions mettre en pratique quand nous verrons un migrant ou un musulman de la région, que nous puissions vraiment être capables de parler d'une manière correcte, Seigneur, de vraiment être très respectueux et en adéquation avec le contexte de la personne. Merci Seigneur d'avoir permis que nous puissions recevoir ces enseignements, et nous te prions de bénir le restant de cette journée et toute la semaine, que ta bénédiction soit avec chacun. Merci Seigneur. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Bon dimanche et bonne semaine. Il y a du potage aussi. Voilà. Merci Garib.
Oui, on va prier. Alors, je rappelle ceux qui veulent faire une offrande d'amour.